Salut, moi c'est Miley. Mon anecdote farfelue, ça concerne la nourriture. J'en ai beaucoup, mais ma préférée, c'est dans le fond ma première année d'université, c'était j'étais en appartement et j'ai décidé de faire cuire des pâtes. Donc j'ai fait bouillir de l'eau et je me pensais bonne, donc j'ai pas mis de minuteur et je suis partie faire des devoirs dans ma chambre. Quand je suis revenue, il y avait juste plus d'eau dans le chaudron.
Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième épisode du podcast Control Back. Aujourd'hui, on a eu la chance de rencontrer Lauriane, qui est diététiste nutritionniste, puis on a vraiment eu une belle discussion avec elle.
Ouais, vraiment, on a parlé de plusieurs sujets, là, surtout démystifier un peu l'alimentation, là, donc des trucs pour économiser, pour bien s'alimenter en tant qu'étudiant, mais aussi parler un peu des trends là, en ce moment, là, les protéines, la boisson énergisante, etc. Fait que ça a vraiment été enrichissant. Là. Moi, ça m'a vraiment aidé au quotidien, je suis sûre. Oui. Fait ouais. On espère que ça va vous plaire, puis c'est parti pour l'épisode!
Alors, bonjour les filles, bienvenue à notre podcast sur Control Back. On est accueillis aujourd'hui avec Lauriane, qui est nutritionniste.
Bon matin.
Merci bonjour. D'avoir accepté l'invitation, d'avoir accepté de discuter avec nous aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter, nous parler de toi, ton parcours scolaire, ton parcours professionnel, jusqu'à aujourd'hui, en fait.
Parfait. Écoutez, les filles, c'est super diversifié. Je vais essayer de faire ce cours. En fait, j'ai terminé mon baccalauréat en nutrition en 2014, à l'Université de Moncton, déjà 11 ans. Ouh. Ça me rajeunit pas. Par la suite, j'ai exploré vraiment différents milieux. J'ai travaillé au début en santé publique, milieu de l'agriculture locale, complètement différent de ce que je fais aujourd'hui. À mon retour au Québec, j'ai commencé à travailler tout de suite en nutrition du sport, là, en me rendant compte, mon Dieu, je pense que je manque un petit peu de compétences. J'ai quitté, en fait, pour l'Australie pour me former, au Centre national du sport australien. J'ai un parcours un peu plus, je vous dirais, atypique comme nutritionniste du sport, un peu différent. Okay. Donc, en fait, voilà, c'est ça. J'ai vraiment fait une certification en nutrition du sport, formation continue. Je suis membre de leur, c'est pas un nom professionnel, mais c'est une association, en fait, des diététistes du sport depuis 2015. Puis, j'ai continué à travailler un petit peu en santé sportif, en pratique privée pendant à peu près, je vous dirais. Ben, en fait, je travaille encore à ce jour en pratique privée à Montréal j'ai travaillé jusqu'en 2022 à Montréal, en fait, 2023, pardon. Puis, ça a été super diversifié, travailler un petit peu en CHSLD, comme beaucoup durant la pandémie, prêter main forte. J'ai fait ça pendant quand même de nombreuses années en milieu hospitalier, mais j'ai toujours eu vraiment ce qui me passionnait le plus, c'était vraiment la pratique privée, les troubles alimentaires, la nutrition du sport, ça a toujours été vraiment mes sphères d'intérêt. Malheureusement, souvent, les deux peuvent cohabiter. J'ai beaucoup d'athlètes qui ont cette préoccupation-là qui fait le plus présente. J'accélère aujourd'hui, en fait, j'ai commencé à travailler à Sherbrooke à la fin 2022. Puis, on dit de fil en aiguille, il y a plein de belles opportunités qui se sont présentées à moi. J'ai pu collaborer avec comme excellence sportive dès le début. Commencer un petit peu au sport-études au Triolet. Je pense que c'est vraiment un super beau programme de nutrition où on offre plein d'ateliers aux jeunes, autant plus personnalisés que vraiment... plus généraux à ce moment-là, offrir des conférences aux parents, on a fait vraiment plein de beaux projets. Puis ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à collaborer un petit peu plus avec Martin Fréchette, qui est un nutritionniste justement, qui travaille justement à l'Université de Sherbrooke, qui est chargé de cours, puis qui est doctorant ici aussi. Donc, ça, de fil en aiguille, plein de belles opportunités, collaborer de plus en plus avec Excellence Sportive pour suivre des athlètes de plus haut niveau, toujours en continuant ma pratique privée, également ici à Sherbrooke, qui est en fait la même... grande clinique. En fait, c'était pas la bannière, mais c'était un autre bureau, en fait, de la clinique qu'on opérait à Montréal. Puis voilà, ça s'est déboulé super rapidement. J'ai eu plein de belles opportunités de travailler avec plusieurs écoles secondaires en sport-études. Puis en fait, l'année dernière, suite en fait à une volonté de l'Institut national du sport d'offrir plus d'équipes de soutien intégrées. Je ne sais pas si vous avez entendu parler un petit peu de ce que c'était dans le domaine du sport.
Je connais l'IMS, mais je ne connais pas...
En fait, c'est des équipes vraiment multi, en fait, comme disciplinaires. Fait qu'on peut avoir, dans le fond, un médecin sport, un psychologue ou une préparateur ou une préparatrice mentale, préparatrice physique, les entraîneurs, bien évidemment, nutritionniste, physiothérapeute, thérapeute du sport. Donc, c'est des équipes assez diversifiées où on veut vraiment, en fait, être présent pour soutenir l'athlète dans son développement. Donc, vraiment, en début de saison, hors saison, on se rencontre assez régulièrement pour faire le point sur la santé des athlètes. Mm-hmm. Donc, j'ai pu commencer à m'impliquer auprès du Varéor avec le volleyball masculin l'an dernier. Là, on en est à ma deuxième année. Puis, on a également pu rajouter cette année comme le volleyball féminin. Donc, c'est un super beau projet qu'on est bien excité de mettre en place cette année. Oui, dans l'aiguille, j'ai également commencé à travailler un petit peu avec les Gators en hockey féminin de l'Université de Bishop. Donc voilà, je fais ça rapidement. Je travaille principalement, puis un peu avec d'autres organismes québécois, comme la Fédération des sports cyclistes, Triathlon Québec et Canada. Si je fais ça vraiment rapidement, donc ma carrière a vraiment évolué en direction du sport dans les trois dernières années assez rapidement. Oh, je peux me présenter vraiment... plutôt rapidement.
Mais non, c'était
parfait. Ça ressemble pas mal à ça.
C'est vraiment impressionnant de voir ton parcours. Là, oui. C'est vraiment très diversifié.
Oui, oui, j'ai bougé beaucoup de sphères.
Je suis curieuse de savoir, vu que tu t'es un peu... t'as développé ta niche là, en nutrition sportive. Est-ce que toi aussi, t'étais une sportive quand t'étais plus jeune ou pas du tout?
Vous allez rire, j'ai toujours été quelqu'un de très de sport individuel. J'ai toujours été... J'ai jamais eu cet esprit-là de compétition. J'ai toujours été, oh mon Dieu, que l'important, c'est de participer. Vous pouvez vous imaginer que c'était pas la meilleure dans les sports d'équipe. J'ai toujours aimé la course, comme la natation, plus jeune. J'ai toujours, je dirais, un petit peu poursuivi là-dedans. C'est vraiment la course à pied, ça a pas mal toujours été mon sport. J'ai toujours été très active, sans nécessairement être une athlète de haut niveau, bien évidemment. Je pense aussi que si je me souviens de mes cours d'éducation physique, ça a vraiment évolué depuis le temps où c'était vraiment est-ce que tu es bonne dans un sport, tu vois, à certains points. Fait que, tu sais, je trouvais que ça n'encourageait pas nécessairement la participation des jeunes filles versus maintenant, de ce que je vois, ça a complètement changé. Donc, oui, j'ai toujours été active, ça a toujours fait partie de mon mode de vie. Cool. À ce moment-là.
Puis moi aussi, j'ai une autre question, plus sur ton parcours académique.
Oui.
Si on remonte là, à quelques années là, derrière, comment t'as décidé, en fait? Qu'est-ce qui t'intéressait du bac en nutrition? C'est combien de temps, un bac en nutrition? Là, j'imagine, tu l'as fait à Montréal, je ne suis pas certaine.
Non, c'est ça. Moi, je suis partie, en fait, au Nouveau-Brunswick, j'ai une bourse d'études, effectivement, en train de travailler. Pas travailler, mais étudier au Nouveau-Brunswick. En fait, au Québec, en fait, le baccalauréat est une durée de 3 ans et demi, puis ils ont des stages habituellement l'été, en fait, plusieurs stages tout le long de leur parcours. En fait, à la base, quand j'étais, mon Dieu, même à l'école primaire, je pensais vouloir devenir psychologue. J'ai toujours été intéressée par la relation d'aide. Je faisais partie, mon Dieu, ça a l'air un peu intense, mais de clubs de médiation. Quand j'étais jeune, je m'intéressais beaucoup à la résolution de conflits. Je pense que dans mon cours, je vais vous dire, de biologie en secondaire 2 ou 3, où là, on a commencé à parler un petit peu de nutrition. J'ai toujours eu des parents qui cuisinaient énormément, pour qui c'était important. Sans aller dans l'extrême de bien se nourrir, de faire attention, puis s'intéresser beaucoup, très épicurien à l'alimentation. Puis, j'ai comme eu un petit coup de cœur, je me suis inscrite, j'ai débuté ma technique en diététique que je n'ai pas terminée, j'ai fait le pont dans le fond, c'est ça, à l'Université de Moncton, j'ai complété mon baccalauréat. Dans les autres provinces, c'est généralement 5 ans, c'est un petit peu plus long, parce que les stages sont vraiment à la dernière année de pratique.
Okay.
C'est un petit peu différent, c'est un petit peu comme ça dans toutes les autres provinces. Puis là, par la suite, la seule différence, c'est qu'on doit passer en fait l'examen d'entrée à la profession. Puis par la suite, on peut être diététiste après nos 5 ans de pratique.
C'est peut-être moi qui sais pas, mais c'est quoi la différence entre nutritionniste et diététiste?
En fait, au Québec, les deux termes sont protégés, mais ils ne sont pas protégés partout au Canada. Le terme vraiment, je vous dirais, officiel, c'est vraiment diététiste, ou en anglais, on va dire vraiment registered dietitian. Mondialement, c'est un terme qui est protégé. En fait, diététiste, nutritionniste est protégé au Québec. Par contre, si on va par exemple en Ontario, ce n'est pas un terme protégé. Mm-hmm. Dans plusieurs provinces, ce ne l'est pas. Donc, c'est pour ça qu'on se présente comme diététiste, nutritionniste, généralement, juste pour éviter comme la confusion à ce moment-là. Oui, parce que dans certaines provinces, pour avoir fait un cours de 2-3 jours puis m'appeler nutritionniste aussi. Donc, c'est pour ça. C'est vraiment ça la différence. Fait que généralement, si vous voulez vraiment vous assurer, il faut vraiment qu'il y ait, en fait, le terme diététiste, nutritionniste. En fait, dans la signature ou dans le prénom de la personne, il faut consulter. C'est rapidement la différence.
Puis, c'est quoi une journée type dans ta vie de nutritionniste? J'ai l'impression que tu fais vraiment différentes choses, mais...
On dit oui! Et c'est super varié, je vous dirais. Ça dépend, c'est sûr que là, on est en saison, donc je vous dirais, ça peut vraiment varier. Ça peut varier d'une journée à l'autre. Je peux faire quelques heures de consultation au bureau, comme je peux me rendre à l'université, rencontrer des athlètes. Habituellement, quand c'est jour de match, je vais toujours faire un petit peu de préparation alimentaire. La préparation, par exemple, mes collations, c'est toujours en fait, un genre de petite station de collation pour les athlètes. Pendant leur match pour s'assurer qu'on ne manque pas d'énergie. Ça peut vraiment varier, je vous dirais. Je peux faire un petit peu de consultation au bureau, travailler sur certains projets, aller à l'université ou à Bishop, revenir, faire des ateliers en sport-études. Donc, je vous dirais, j'ai beaucoup de variété dans ma journée. Je n'ai pas une journée qui se ressemble. Mais généralement, c'est un mix d'ateliers puis de consultations individuelles.
C'est fun, cet équilibre-là.
Oui, vraiment. Je pense que ça a toujours été important pour moi. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup bouger. Je ne l'avais pas mentionné, mais juste avant la pandémie, je travaillais beaucoup en milieu corporatif à Montréal. Okay. Je faisais des ateliers en entreprise, ce que j'adorais. Comme vous pouvez vous imaginer, avec la pandémie, ça a été un petit peu mis sur pause. Je me suis repositionnée, mais j'ai toujours eu besoin d'énormément de variété pour rester stimulée. Donc, il n'y aurait pas de journée typique. Je voudrais ça dépend beaucoup.
On s'attendait à cette réponse.
Oui, quand même. C'est très varié.
Si on tombe maintenant à nos questions un petit peu plus générales, on voulait savoir, Parce que là, c'est pour notre communauté étudiante qu'on fait mm-hmm. ça. On veut leur donner, on veut que tu leur donnes des trucs dans leur quotidien. Ben, puis, on se demandait les fameux déjeuners. Il y en a qui déjeunent, il y en a qui déjeunent pas, il y en a qui ont des maux de cœur le matin. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce sujet?
C'est ça, je vais avoir une réponse qui va dire ça dépend de la situation de chaque personne. C'est sûr que ma réponse va être différente. Tu sais, j'ai un athlète qui s'entraîne tôt le matin versus la personne qui, disons, va dire « je dois me lever à 7 heures pour aller à mon cours, j'ai peut-être pas super faim, mais je peux m'amener mon déjeuner pendant mon cours puis le manger plus tard. » Donc, ma réponse va vraiment varier en fonction de la réalité. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, on essaie d'encourager les gens d'écouter leurs signaux d'appétit. C'est sûr que si j'ai tendance, c'est sûr que je suggérerais pas de sauter le repas complètement parce qu'il y a quand même plusieurs études qui démontrent qu'on va avoir tendance à avoir des apports plus élevés en soirée, mais peut-être des pertes de contrôle alimentaire, tendance à plutôt grignoter en soirée. Puis on sait que pour un étudiant qui a peut-être un budget limité, ça pourrait se traduire en une consommation peut-être d'aliments plus transformés, plus rapides. Peut-être qu'on va revenir justement de l'université ou du travail super affamé. On risque peut-être de faire des moins bons choix alimentaires. Donc, je dirais que ça va dépendre de la situation. C'est sûr que la personne qui a peut-être mal au cœur, pas habituée, on peut entraîner le système digestif, un peu comme chez les athlètes. On peut dire, je peux commencer tranquillement par peut-être une petite compote de pommes, un petit verre de smoothie. Je peux commencer très graduellement, mais le système digestif peut s'habituer. Mais c'est sûr que si on a l'opportunité de déjeuner un petit peu plus tard, peut-être vers 9-10 heures, quitte à prendre un plus petit déjeuner, ça aussi, ça peut être une option généralement. Mais je dirais de sauter le repas complètement, c'est pas quelque chose que je recommanderais. Parce que ça risque d'avoir des répercussions sur notre énergie aussi, là, pendant les cours, puis pendant la fin de la journée.
Mais toi, Laura, je sais pas, t'es athlète dans le variant natation, fait que je sais pas si c'est toi quelque chose que t'as déjà eu un problème là, dans ton quotidien, de dire tu nages à 6-7 heures le matin, est-ce que t'es capable de bien gérer tes repas le matin, comment tu...
C'est très différent, mettons, pour chaque nageur. Okay. Moi, personnellement, je vais manger, je vais me faire comme des muffins ou un petit pain comme banane noix le matin. Puis ça, je sais que ça passe bien. Ouais. Mais tu me dis, mettons, mange deux toasts au beurre de peanut comme un bol de céréales. Aucune chance que ça passe. Mais il y en a que ça passe super bien puis qui ont besoin de ça. Moi, un petit quelque chose, puis je vais manger mon vrai déjeuner après l'entraînement. C'est tôt, là, tu sais, c'est ça, on saute dans l'eau à 6 heures, là, fait que je peux pas... Même, tu sais, je sais qu'il y a des aliments que je digère moins, là. Banane, ça passe pas, mais pain aux bananes, oui. En tout cas, je pense que c'est de l'essai-erreur. Maintenant, j'ai trouvé comme qu'est-ce qui me faisait bien puis qu'est-ce que je digérais bien, fait que c'est ce que je fais à tous les matins. Mais, il y en a que... Je pense à mon frère, là, lui, c'est un bon déjeuner avant.
Deux bacon.
Oui. Il n'y a aucun problème. Là. Moi, je regarde ça et je suis comme, hey boy.
C'est un système digestif d'acier. Là. Mais
non, après, quand il est 7h30 après l'entraînement, là, j'ai faim, par exemple. Mm-hmm. Puis je sais qu'il faut que je mange, mais j'aime mieux avoir peut-être un petit peu. T'sais, pas le ventre complètement vide, là, mais un peu plus léger puis manger après.
Oui, absolument. Puis c'est chaque athlète est vraiment différente. Comme tu dis, je pense de faire des tests, de voir à ce moment-là, est-ce que je peux prendre une bonne collation la veille, comment me coucher, qui va faire office de mon déjeuner, quitte à reprendre un petit quelque chose le matin. Tu sais, c'est très, très, très individualisé. Là. C'est un peu la beauté de la nutrition. Mais oui, c'est sûr que de s'entraîner complètement le ventre vide, c'est peut-être pas quelque chose que je recommanderais. Bien, surtout si notre objectif, c'est vraiment d'avoir de l'énergie, puis viser plus, par exemple, de la performance, parce que j'imagine que tu peux le savoir, et après, on va avoir super faim et manquer d'énergie. Ouais, c'est important de trouver la formule qui convient à chaque.
Puis même durant les entraînements de l'après-midi, qui sont un petit peu plus longs généralement, puis des fois, peuvent même comme empiéter un petit peu sur l'heure du souper. Nous, on nage le soir de 4h30 à 6h30. Fait que c'est comme un drôle d'heure parce que tu sors de la piscine, puis là, t'as faim pour ton souper, mais en même temps, tu peux pas te permettre de souper un gros spaghetti pain à l'ail à 4 heures.
Non,
en tout cas, pour ma part, ça
va beaucoup trop lourd.
Fait que souvent, c'est ça. Je me prends une collation, et je sais aussi vers quelle heure que je sais que ça va avoir le temps de digérer. Puis après ça, on soupe à vrai.
Exact.
Prochaine question. C'est quoi tes idées de repas go-to pour économiques, nutritives, mais qui sont aussi bonnes? Ça goûte pas la santé. Là.
J'en ai plein. ça va vraiment dépendre. C'est sur le volet économique. C'est sûr, je suis une très grande fan des One Pot, de la mijoteuse, des repas à la plaque, parce que, autant comme professionnel qui est assez occupé, comme étudiant, c'est pas très long à faire. C'est sûr que, aussi, je suis très fan d'un chili aussi, c'est tellement facile. On peut en faire en grande quantité. Puis souvent, on peut le faire avec, par exemple, la protéine gélatine texturée ou des légumineuses et de la viande hachée pour diminuer un petit peu nos coûts à l'épicerie. Je suis très fan aussi de tout ce qui est comme burrito, bol repas, un petit peu style poulet rose. Je trouve qu'on peut vraiment adapter ça vraiment à notre sauce. Côté plus économique, c'est sûr que j'aurais tendance à dire de privilégier C'est sûr que les aliments de saison, mais aussi les protéines végétales en général, parce qu'on sait que c'est, de toute façon, c'est meilleur pour notre empreinte écologique, beaucoup moins dispendieux que la viande, généralement, que les produits carnés. Puis aussi, c'est beaucoup plus économique. Souvent, on peut acheter, par exemple, des légumes en conserve, plusieurs paquets de tofu. Ça va être beaucoup plus économique. Pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins habitués, on peut les intégrer progressivement à nos recettes. Donc, tu sais, ça peut être de dire, hey, je vais me faire justement une sauce avec ma spaghetti, je vais peut-être mettre un petit peu de lentilles ou je vais mettre de la protéine végétale texturée que je vais réhydrater. On n'y verra que du feu. Le goût est complètement le même, mais on vient vraiment d'augmenter ma teneur en fibres, diminuer un petit peu la quantité de gras saturé puis diminuer comme ma facture d'épicerie en même temps. Donc, ça ou des soupes repas, très fan d'une soupe repas, d'une bonne soupe minestrone. Des fois, quand le bœuf est en rabais, je me fais une belle grosse soupe bœuf et orge avec des légumes déshydratés. Il y a plein de belles options là, que ça fera à nous.
Ouais. Mais c'est ça, moi, je fais partie de la team difficile qui aime pas les haricots, les trucs comme ça. Oui. Fait que ça m'aide, là, ton ça petit truc, là. Mais ça goûte quoi, la protéines, végétales, texturées, j'ai jamais goûté.
Ça a vraiment un petit goût, je vous dirais. C'est sûr, quand on la mange, comme ça, un petit goût de noisette. C'est super léger, ça s'adapte bien. Moi, j'en mets dans mes gruaux, par exemple, pour les rendre un petit peu plus soutenants le matin, dans mes boules d'énergie, parce que la texture, une fois même sèche, va vraiment s'apparenter à l'avoine. Donc, on peut soit le réduire en poudre au mélangeur ou au robot culinaire, ou l'incorporer dans des repas. En fait, on le fait réhydrater avec du bouillon ou de l'eau. Vous avez remarqué que ça a vraiment une texture similaire à de la viande hachée. Donc, tu sais, en termes de goût, je pense que c'est peut-être plus facile à incorporer qu'une légumineuse qui va avoir peut-être une texture qui ne va pas nécessairement plaire à tout le monde. Mais vraiment, c'est un goût qui est très léger. J'en ai des clients qui aiment beaucoup ça, en fait, croquer un peu sur une salade, ça se mange super bien. Ça s'incorpore dans plein d'affaires, honnêtement. Là, c'est super versatile.
C'est pas salé.
Non, vraiment pas. Ça va vraiment prendre le goût que tu vas y donner. Donc, si par exemple, tu veux te faire des tacos, ben, tu pourrais, par exemple, faire venir ta protéine végétale texturée réhydratée dans un petit peu d'huile, mettre tes épices à taco. C'est sûr qu'il y a un petit goût qui ne sera pas exactement similaire au bœuf haché, mais c'est à s'y méprendre. Puis on pourrait facilement dire, je vais peut-être comme. Couper ma quantité de viande de moitié, mais sinon, il existe plein de belles recettes. Si on va regarder, dans le fond, PVT ou TVP, dans le fond, en anglais, c'est assez...
Ben, justement, c'est toi qui es fan de yogourt le matin, là, mais moi, je le prends comme granola. Faut juste pas trop que tu... Faut pas, mettons, que tu le mettes la veille, là, si tu te fais des overnight.
Oui, ça va absorber. Oui, effectivement. Exact.
Mais honnêtement, ça... Tu ne vois que du feu.
Je fais une recette de granola, puis je mets environ, je pense, une tasse et demie de PVT, mélangée avec comme l'avoine puis les noix, puis ça permet vraiment de rendre l'aliment plus, puis c'est beau, puis c'est économique, là.
Ben oui. Oui,
définitivement.
Ça goûte pas.
Oui.
Je pense que c'est un bon, je pourrais pas goûter avant que j'en achète, parce que je suis difficile.
Puis mettons qu'on se tourne vers un étudiant, et on parlera peut-être après là, d'un étudiant athlète, mais c'est comme deux types différents. Mais pour mettons pour un étudiant normal, que je vais appeler en gros guillemets, là, la collation ultime. Mettons que tu as une grosse journée de cours, tu t'apportes ton dîner, mais est-ce que tu aurais une idée en tête là, d'une bonne collation nutritive qu'on peut prendre soit le matin ou l'après-midi, là, selon la faim, encore une fois, mais une idée là, d'une bonne collation?
Je vous dirais que généralement, la collation que je privilégie va vraiment contenir deux choses. Généralement, une source de protéines puis une source de glucides ou un aliment qui est riche en fibres. En fait, l'aliment riche en glucides ou en fibres va venir me donner l'énergie dont j'ai besoin pour rester concentrée, tandis que l'aliment riche en protéines va vraiment aider à me rassasier puis à combler ma faim jusqu'au prochain repas. Ça pourrait être aussi simple qu'une combinaison typique de fromage et craquelin. Je pourrais me faire des petites galettes maison, un petit parfait au yogourt, par exemple, avec un petit peu de granola. Je pourrais me faire un smoothie. Même, j'aime bien les petites boîtes végétales qui sont aromatisées, par exemple, à la vanille. Oui, un petit peu de sucre, mais ça reste quand même super pratique parce qu'on n'a pas besoin de le réfrigérer. Je pourrais me faire un mélange du randonneur avec justement des noix, des graines, un petit peu de PVT, un petit peu de brisure de chocolat, des fruits séchés, plein de différentes collations. Mais c'est vraiment les deux composantes. T'sais, si on prend un aliment qui a uniquement des protéines, ça va combler notre faim. On aura peut-être pas nécessairement le regain d'énergie qu'on aurait avec un aliment plus riche en glucides. Puis à l'opposé, si on prend simplement un fruit, par exemple, puis qu'on a un 3 heures avant notre prochain repas, on risque pas de se sentir rassasié très longtemps. Fait que c'est vraiment la combinaison que je conseille à tout étudiant.
Puis là, mettons, là, j'ai en tête comme deux types de mentalité. Il y a peut-être ceux qui vont prendre comme des énormes repas, mais qui ne mangeront pas entre. Ou ceux qui vont prendre leurs trois repas un petit peu moins comme des grosses portions, puis être capable de grignoter entre eux. Qu'est-ce que tu conseillerais? Encore une fois, j'imagine que ça dépend.
Exactement. Mais... ça dépend de la réalité de chaque individu. T'sais, si on prend un plus gros repas, mais qu'on termine le repas en étant confortable, en étant rassasié, on n'est pas nécessairement de somnolence, mais ça se peut que ce soit la portion qui nous convienne. Il y a des gens pour qui 3 repas par jour, c'est suffisant. Ils n'ont peut-être pas nécessairement besoin de collation. C'est sûr qu'une personne qui est peut-être très active ou un athlète qui risque, pour qui peut-être prendre un gros repas va peut-être pas être optimal en fonction du de l'entraînement, puis qui ont déjà des besoins nutritionnels beaucoup plus élevés, bien, ça risque d'être plus facile de répartir ça en 6 petits repas durant la journée. Mais encore, ça va être ma fameuse réponse du ça dépend. C'est vraiment propre à chaque individu. Là, comme,
parfait. Ouais.
Good. Ouais. Okay, en ce moment, c'est vraiment à la mode les boissons énergisantes, les cafés, etc. C'est quoi ta position sur la consommation de ce genre de produits? Est-ce que tu as peut-être des alternatives? Oui.
Surtout matin, à l'université, là. On envoie la gourou à 8h30. Oui, exact.
Ben, c'est sûr que, tu sais, il faut se rappeler que la caféine, ça masque la fatigue, ça ne donne pas d'énergie. Donc, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Tu sais, si on regarde au niveau de Santé Canada, on recommande de limiter à 300 à 400 mg de caféine par jour. Habituellement, dans les boissons énergisantes, la limite légale au Canada, c'est 180 mg par canette. Okay. Donc, tu sais, je vous dirais qu'en soi, est-ce que c'est mes produits? C'est sûr que souvent, dans certaines boissons énergisantes, ça va vraiment dépendre des produits. Certaines vont avoir aussi de la taurine, dont d'autres effets stimulants. Ça peut peut-être perturber un petit peu notre système digestif. On sait que je voudrais chez les adultes, il y a moins d'effets secondaires négatifs répertoriés que chez les jeunes qui vont consommer. Où là, on peut avoir plus d'irritabilité, de palpitations cardiaques, mais souvent, les saveurs sont très alléchantes, donc c'est plus facile d'en prendre beaucoup. Je voudrais que ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Si on reste dans des quantités qui sont raisonnables, puis tu sais, si... C'est sûr qu'il faut se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'en prendre plusieurs dans ma journée? Est-ce que je dors suffisamment? Est-ce que je m'alimente suffisamment? Est-ce que je néglige certaines parties de ma récupération si je suis un athlète? Donc, je dirais qu'il faut vraiment y aller de façon modérée puis écouter son corps à ce moment-là. Mais c'est sûr que de 1 à 2 cafés par jour, il n'y a pas de problème généralement. Même chose avec la boisson énergisante. C'est sûr que personnellement, je préfère le café, un petit peu plus naturel, mais il y a certaines boissons énergisantes qui sont pas nécessairement plus naturelles, mais qui ont peut-être moins d'additifs, un petit peu plus simples à consommer, donc qui peuvent être intéressantes. C'est la base de thé vert, par exemple. Donc, il faut juste faire attention, je vous dirais, aux additifs. Puis parfois, certaines vont contenir des vitamines du groupe B ou d'autres vitamines ajoutées. Il faut toujours faire attention pour pas dépasser les doses maximales non plus. Donc,
ça fait quoi, ça, si tu dépasses les...
Bien, certaines peuvent... Bien, déjà, en partant, ça va colorer votre urine, ce qui n'est pas nécessairement dramatique, mais ça va vraiment dépendre, en fait, de ce qu'on ajoute. C'est sûr que des fois, on peut voir des 200-300% de vitamine B6. C'est trop de certaines choses, certaines vitamines. C'est sûr que c'est... qui sont hydrosolubles, on va en éliminer une bonne partie dans l'urine, mais ça pourrait créer quand même des problèmes si on a des conditions de santé déjà préexistantes. Il faut juste faire attention à ce qu'on consomme. Il y a certaines boissons où ça va être un petit peu de thé vert, un peu de stevia ou de sucre naturel, puis de l'eau pétillante. J'aime mieux ce type de produit-là qu'un produit qui va avoir... exactement. Parce que généralement, on n'a pas besoin d'avoir toutes ces vitamines-là exactement dans le produit si on en combe via notre alimentation. Donc, ça dépend du produit, je vous dirais.
Parfait. Puis un peu dans le même ordre d'idée, on parle de trends. Là, avec TikTok, on dirait qu'on a comme plein de... On a accès à plusieurs informations. Oui. Puis récemment, je ne sais pas si tu as vu, mais Tim Hortons est sorti avec un fameux café protéiné. Et là, ma question...
Oui.
Ben d'ailleurs, pourquoi, selon toi, à part au niveau marketing, mais pourquoi la protéine, c'est une mode? Est-ce que tout le monde doit prendre plus de protéines? On dirait que c'est ça, c'est tellement comme tout le monde prend des suppléments, tout le monde prend... Ben pas tout le monde, j'exagère, généralise, là, mais c'est ça, c'est très, très trendy, là, si je peux me permettre l'anglicisme.
What I eat in a day, genre 100 grammes de protéines.
Ouais, c'est ça. Exact.
Ouais.
Ben je pense que les protéines ont toujours été, si on remonte à l'époque des culturistes, ont toujours été quand même assez importantes, puis si on regarde les diètes de type idéal protéines, ça date pas d'hier non plus. Je pense qu'il y a un engouement, on a une population qui a accès à de l'information, malheureusement souvent ironique, sur les réseaux sociaux, mais qui est beaucoup plus éduqué ou qui s'intéresse à l'alimentation. Puis l'industrie, je veux dire, n'est pas bête à tout ça. Il voit que si les gens recherchent des aliments riches en protéines, vous allez remarquer que dans le marketing, souvent, le mot protéine va être écrit en grosses lettres. Peut-être souvent, je vais remarquer de couleur noire, couleur bleue pour attirer une clientèle plus masculine, une clientèle athlétique. Bon, est-ce que... Oui, c'est important, les protéines. Je voudrais que la plupart des Canadiens, on en consomme suffisamment, mais on les consomme pas bien. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance... Tu sais, ce qu'on devrait faire, idéalement, c'est bien les répartir durant la journée. Au petit déjeuner, tu sais, si on va avec, par exemple, les deux rôtis avec barre d'arachide, avec un pain régulier, il n'y a pas suffisamment de protéines pour que ça soit soutenant. Donc, est-ce qu'on a besoin d'en consommer plus ou peut-être de mieux les répartir? Ce serait probablement ça. Versus la personne qui va consommer peut-être un 50-60 grammes de protéines en soirée, ben c'est pas nécessaire si vous va te coucher par la suite. Ou, tu sais, la personne qui va consommer des suppléments mélange justement de protéines en poudre. Même chose, ça peut être très pratique, ça peut être intéressant comme produit, mais on n'est pas obligé d'en prendre pour être en bonne santé. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est vraiment une question de marketing. Puis il ne faut pas oublier que certains produits qui vont ajouter des protéines pour se donner une aura d'un produit plus nutritif. On pense aux bonbons qui sont riches en protéines, par exemple. Est-ce que je voudrais consommer des bonbons? Oui, ça existe. Il y a toutes sortes de produits ou comme des cafés protéinés. Je pense que l'idée n'est pas mauvaise, mais je pourrais très bien me faire un café protéiné maison en prenant un lait qui est naturellement plus riche en protéines, comme le Natrel Plus ou le Lactantia, puis prendre du café, mm-hmm. peut-être mettre un petit peu de sirop d'érable et je sauverais beaucoup de sous, puis tu mangerais quelque chose comme ça à la maison. Ouais. Donc, tu sais, je pense que c'est vraiment une question de l'industrie répond à la demande, mais tu sais, il faut faire attention aussi avec une consommation excessive de protéines. Je sais que j'ai des collègues en clinique qui commencent à observer beaucoup plus de cas d'insuffisance rénale chez des jeunes hommes, surtout qui consomment des quantités excessives, parce que souvent, ce qu'on va voir, c'est 150, 170 grammes par jour. Je me dirais, moi, t'es un athlète de SP4, t'as pas des besoins nutritionnels qui justifient ça. Donc, je pense que c'est un peu hype, comme on dit. Ouais. Oui, il y a des mérites, c'est important d'en consommer suffisamment, surtout en vieillissant, mais il faut surtout bien les répartir durant la journée. Puis éviter, si on consomme trop de protéines, mais est-ce que je laisse suffisamment de place dans mon assiette aux grains entiers, aux fruits, aux légumes, aux autres, en fait, aliments qui vont être super importants? C'est ce que je chercherais à avoir comme nutritionniste.
Tu sais, tu l'as mentionné un petit peu, mais je pense que qu'est-ce qui est chouette, c'est que l'offre est comme vraiment variée. Mm-hmm. Fait que tu as parlé là, justement du lait Natrel 18%.
Exactement, oui.
C'est 18 grammes, excuse.
Oui, ben,
c'est ça.
Oui, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Tu dis la bonne chose.
Tu sais, je pense qu'il y a comme du pain, c'est Bon Matin qui font du pain protéiné. Tu sais, il y a comme plusieurs marques comme ça qui, tu sais, au goût, honnêtement, moi, je vois aucune différence. Là, fait que ça se place comme super bien dans ton quotidien. Puis c'est un produit. C'est substitution, mais en même temps,
exactement,
le goût ne diffère pas. Fait que ça peut être quand même une option qui est envisageable et pertinente pour les étudiants.
Absolument, à 100%. T'sais, on peut avoir des produits intéressants. Je pense que ce que je dirais, c'est qu'il faut faire attention aux produits qui sont ultra transformés, qui vont mm-hmm. ajouter des protéines simplement pour se donner un halo de produits mm-hmm. qui est plus nutritif. Mais effectivement, un pain qui est plus riche en protéines, une boisson végétale ou un lait qui naturellement, parce qu'il n'y a pas d'additifs naturellement plus enrichis, ça peut être une option intéressante pour déjeuner ou mettre dans un smoothie, tout à fait. Fait que, t'sais, je pense que certains produits ont leur mérite. Il faut juste faire attention, ne pas nécessairement tomber dans le panneau. T'sais, on va voir par exemple des chips protéinés. Est-ce que je suggérais de consommer des chips? Je prends les protéines. Je pense que je pourrais aller chercher ça dans du fromage cottage, du yogourt grec, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Là. Ça dépend de...
Puis, est-ce que quelqu'un... ça va être quoi, en fait, les effets secondaires de quelqu'un qui prend trop de protéines?
Je vous dirais, généralement, c'est pas des effets qui vont être... encore là, ça dépend de... Est-ce que ça a un impact sur le restant de mon alimentation? T'sais, si je suis, par exemple, comme j'ai beaucoup d'athlètes, souvent les apports en protéines sont suffisants, voire excessifs, mais on va constater que les apports en glucides sont souvent insuffisants pour répondre à la demande du sport. Donc, on va voir un athlète qui va peut-être dire « Je manque d'énergie, j'ai peut-être des courbatures, j'ai l'impression d'avoir de la difficulté à enchaîner plusieurs entraînements de suite dans ma semaine, je me sens très fatiguée. » Donc, c'est sûr que plus qu'au niveau des athlètes, on va remarquer que généralement, il va avoir un déséquilibre au niveau nutritionnel. Chez monsieur, madame, tout le monde, c'est ça l'enjeu. Il n'y aura pas nécessairement d'effet secondaire sur le coup, mais on peut le voir à long terme. T'sais, on estime, je pense qu'il y a 10 % au Canada de la population qui aurait une prédisposition à développer une insuffisance rénale chronique. Donc, je vous dirais, il faut juste faire attention. Il n'y a pas d'effet immédiat, mais on pourrait le constater à long terme. Moi, c'est plus au niveau du déséquilibre nutritionnel que ça va créer. Je priorise tellement les protéines, mais probablement qu'il y a d'autres aspects de mon alimentation qui en prennent un petit peu le coup. Je me suis fait, mais c'est juste qu'ici, donc parfait.
Ouais. Puis pour essayer de démystifier un petit peu ça, une personne, une femme, taille moyenne, normale, qui fait pas de sport, c'est combien de grammes de protéines qu'on vise à peu près? Est-ce que peut-être que ça n'existe pas un chiffre moyen? Là, mais...
Ça va vraiment aller en fonction du poids de la personne. Okay. Donc, vous allez remarquer sur les réseaux sociaux, on va entendre souvent, on doit prendre 1 gramme par livre. Déjà, en partant, si une personne fait mention d'un nombre de grammes par livre, vous pouvez vous dire que c'est pas... En fait, dans toute la littérature scientifique, on veut toujours parler de grammes par kilogramme. Donc, déjà, en partant, vous pouvez douter d'où vient l'information. Peut-être pas une information qui est très crédible. Nos besoins de base sont de 0,8 grammes par kilogramme de poids corporel pour une personne qui est très sédentaire. Encore là, c'est de base. Est-ce que c'est optimal? Pas tout à fait, à mon avis. Tu sais, je vous dirais facilement, chez une personne qui est peut-être pas nécessairement une athlète, mais qui est quand même active, 1,2 g par kilogramme va être amplement suffisant. Puis là, encore là, on va vraiment... En fait, ça va varier selon les besoins. Les sportifs d'endurance vont avoir des besoins un petit peu plus élevés. Des sportifs, par exemple, qui doivent gagner de la masse musculaire, même chose, vont avoir des besoins un petit peu plus élevés. Fait que je vous dirais que la fourchette va vraiment dépendre de nos besoins. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, 1 à 1,2 g par kilo, c'est vraiment suffisant si on est moindrement actif. On n'a pas d'avantage à aller au-delà.
Parfait. Généralement. Ouais. Prochain sujet qui ressemble un petit peu à la protéine. On en a un peu glissé un mot tantôt.
Je vais sortir mes petites notes.
Bien sûr. est-ce que le commun des mortels, j'ai noté, oui. là, doit prendre des compléments alimentaires, des vitamines ou autres? Oui. Comment on fait pour savoir c'est quoi qui nous manque dans notre alimentation? Tu sais, je pense que ça peut être plus difficile de dire, ah, il manque de vitamine C, là, au quotidien. Oui. Fait que, comment tu vois ça?
Et je voudrais que la grande majorité des gens n'en auront pas besoin. Okay. Tu sais, c'est une industrie, il ne faut pas oublier, en fait, une industrie très lucrative, très peu régulée, par exemple, ce que je répète souvent à mes athlètes, faites attention, parce que beaucoup de produits sur le marché, tu sais, à l'instar des médicaments, les suppléments sont très peu régulé. Donc, je pourrais mettre en marché un produit qui va avoir un numéro de produits naturels de Santé Canada, mais qui ne va pas nécessairement attester que ce qui est sur la liste des ingrédients est réellement ce qui est dans le produit. Donc, ça va vraiment dépendre de la déclaration du fabricant. Donc, il faut toujours faire attention puis avoir vraiment de la vigilance par rapport aux produits qu'on consomme. Bon, c'est ça, je vais peut-être pêcher pour ma paroisse, mais je veux dire, si vous êtes vraiment inquiet, allez consulter une nutritionniste. Il y en a, en fait, vous pouvez probablement en consulter. En fait, tu sais, dans le réseau de la santé publique, c'est sûr qu'il peut avoir un petit délai. Ça peut être bien. Si vous êtes vraiment inquiet, d'aller consulter ou d'en parler, en fait, comme, avec votre médecin, si vous avez vraiment une inquiétude, parce que je vous dirais, tu sais, peut-être que ça va vraiment dépendre de chaque personne. T'sais, une personne qui a une condition chronique, qui souffre de malnutrition, va peut-être pouvoir bénéficier d'une multivitamine. Mais est-ce que, monsieur, madame, tout le monde en a besoin? Pas nécessairement, parce que le corps, naturellement, va éliminer dans l'urine ce qu'il n'utilisera pas. Par contre, il y a certaines vitamines et minéraux, donc on peut développer une toxicité si on le prend trop à forte dose. Donc, c'est pas sans risque. Je voudrais qu'en général, monsieur, madame, tout le monde, on n'a pas besoin de suppléments. Peut-être un petit peu de vitamine D si on a tendance à avoir des carences. Okay. Ou peut-être chez certaines femmes, si on a comme un cycle menstruel abondant, peut-être faire vérifier notre taux de fer pour un supplément de fer. Mais je voudrais que de façon générale, on n'a pas besoin. C'est très individualisé à chaque personne.
Ouais. Puis même pour les clarté. Suppléments, là, ben, je regarde Cam parce que j'imagine que tu es au courant, mais... toutes les athlètes U-Sports là, qui sont dans le réseau du sport, j'imagine avec RSEQ aussi, on doit au début de chaque saison écouter comme faire une formation qui parle justement des suppléments. Tu peux pas acheter un sac de suppléments puis penser que tout est correct à l'intérieur. Il faut vraiment que ça soit comme réglementé. Puis il y a des sites là, qu'on peut regarder s'ils ont été certifiés, mettons. Puis, ça peut être pris parce que... Après ça, test pipi, il y en a qui... Puis tu sais, c'est contre leur gré, là. C'est souvent qu'ils ne voulaient pas, mais qu'il y a des... Bon, là, j'ai pas les termes exacts, là, mais qu'il y a des ingrédients à l'intérieur qui n'auraient pas dû être consommés. Là.
Je pense que c'est 20 à 30 % en Amérique du Nord, des suppléments qui peuvent être contaminés par des stéroïdes, quand des métaux lourds. Puis même, un petit peu moins dramatique que tout ça, mais tu sais, si j'ai un produit qui se vend d'avoir 27 grammes de protéines, puis qu'on le teste, puis qu'il y en a 20, c'est un petit peu plate de payer pour un produit, on n'a pas besoin. Mais oui, effectivement, il y a vraiment des logos de certification qu'on va regarder. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention. Tu sais, c'est pas sans danger, c'est pas parce que c'est en vente libre qu'on peut pas développer de toxicité. Je me rappelle, il y a eu beaucoup de cas de gens qui prenaient des suppléments à base d'extrait de thé vert qui sont ramassés en hépatologie, par exemple au CHUM, pour avoir j'ai dit en anglais comme un liver failure, mais on peut quand même développer des conditions graves avec certains types de suppléments. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vigilant, effectivement, puis consulter un professionnel là, avant de prendre un supplément.
Puis encore une fois, si on s'adresse à un étudiant universitaire, est-ce que tu pourrais leur conseiller trois choses simples qu'ils pourraient faire pour améliorer leur alimentation? Fait que trois conseils, là, mettons qu'on prend justement un étudiant typique, là, trois choses que tu pourrais leur dire puis que ça l'améliorerait, leur façon de voir la nourriture ou de...
Ah, mon Dieu, j'aurais tellement de conseils que je pourrais donner. Est-ce que c'est plus que je parle de la relation à la nourriture ou juste d'améliorer la qualité de leur alimentation dans l'ensemble?
Ben, ça peut être un mélange des deux, si comme tu sais.
Ça peut être plus que trois.
Plus que trois, j'aurais beaucoup à donner. Mais c'est sûr, je voudrais faire attention à l'information que vous consommez sur les réseaux sociaux. T'sais, je me souviens pas nécessairement de l'étude qui avait été faite. Je crois que c'est au Canada qui estimait que 2 % du contenu qui était présenté sur les réseaux sociaux était véridique en termes de nutrition. Fait qu'il y avait énormément de désinformation. Je voudrais faire attention si votre relation à la nourriture est un petit peu fragile, vous avez des préoccupations en lien avec votre image corporelle, je vous dirais, faites attention à qui vous suivez. Désabonnez-vous des comptes qui ne vous font pas sentir bien parce qu'on va voir chaque personne. Tu sais, ce n'est pas parce qu'on mange 3 fois par jour qu'on est un expert en nutrition. Tu sais, je veux dire, je me brosse les dents 3 fois par jour. Est-ce que je suis un dentiste? Ce n'est pas nécessairement pour autrement, mais tu sais, beaucoup de gens, parce qu'ils ont eu du succès, parce que peut-être que leur corps représente plus les standards de beauté, pensent qu'ils sont qualifiés pour donner des conseils nutritionnels. Enfin, je vous dirais d'être vigilant par rapport à ça puis de se poser une question par rapport à ce qu'on consomme. Deuxièmement, je dirais, plus au niveau étudiant, ça a l'air bête, mais faites-vous une liste d'épicerie. Planifier vos repas, ça permet d'éviter les achats impulsifs, de vraiment faire des économies, puis aussi de concrétiser nos objectifs. Si je veux améliorer mon alimentation, bon, comment je peux rendre ça plus concret? Est-ce que je veux manger plus de fruits et légumes, par exemple? OK, est-ce que je peux dire que peut-être le tiers de mon assiette pourrait composer de fruits et légumes? Après ça, à l'épicerie, je pourrais à ce moment-là utiliser les circulaires, des applications comme justement Flip, Rebee, Flash Food, Too Good To Go, Food Hero, ça permet vraiment d'économiser quand même plusieurs sous, peut-être de privilégier les légumes surgelés qui sont aussi nutritifs que frais, en conservant travailler avec peu de sodium. Donc, tu sais, faire peut-être plus de place aux fruits et légumes. Souvent, ce que je constate chez les athlètes que je consulte, souvent, fruits et légumes n'ont pas beaucoup de place dans l'assiette. Souvent, on va penser, ah, ben j'ai besoin de mon riz ou de mes pâtes pour avoir de l'énergie, puis de mes protéines, par exemple, de ma viande, mon poulet ou autre. Mais les fruits et légumes vont être souvent négligés. Donc, je vous dirais, c'est super important, autant pour le système comme immunitaire, pour la santé digestive, pour consommer assez d'antioxydants. Donc, ce serait un très gros truc. Sinon, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais suggérer? Ben, c'est ça, ça serait ben, aussi d'apprendre à cuisiner. T'sais, si vous n'êtes pas à l'aise, c'est peut-être de voir est-ce que, justement, je pourrais faire un petit peu de bouffe le week-end avec une amie, avec mes collègues, par exemple, si mes parents sont plus à l'aise. Est-ce que je pourrais commencer à apprendre à faire quelques recettes de base? Déjà, là, on va vraiment sauver beaucoup de sous puis on risque d'améliorer la qualité de notre alimentation. Fait que, tu sais, de pas essayer de faire des recettes trop complexes, mais commencer par est-ce que je peux me faire une petite soupe maison, un chili, peut-être une recette de muffin qui n'est pas trop compliquée à faire, mais tu sais, de s'habituer. Parce que c'est sûr que si on veut économiser des sous puis tu t'as intimement en cuisinant, bien, on risque de.
Ouais. Oui. Tu l'as mentionné tantôt, là, mais la mijoteuse, là, je pense que c'est quelque chose de quand même... En plus, c'est l'automne, l'hiver.
Ben oui, c'est comme
le temps. Oui, c'est ça. C'est exact. Comme le temps idéal pour faire ça. Puis, tu sais, en fait, tu le fais, puis après ça, ben ça cuit tout seul. Là, fait que tu le laisses sur le comptoir, tu le laisses flyer toute la journée, puis le soir, t'arrives, puis c'est prêt. Fait que je pense que c'est quand même une bonne idée d'apprendre à cuisiner avec une mijoteuse.
Exact. En tout cas, moi, j'aime.
Tu l'aimes ta mijoteuse.
Oui. Et puis j'en ai une montée à la maison, puis c'est pas très dispendieux. On s'entend qu'on peut acheter une mijoteuse pour 40-50 $. Tu sais, aussi, j'aime bien les repas à la plaque qui sont pratiques quand je suis étudiante. Je peux mettre justement mon tofu mariné, mes poitrines de poulet, mes pilons, peu importe ce que j'ai. Comme d'utiliser un petit peu de légumes, des pommes de terre, des patates douces, quoi que ce soit, une petite vinaigrette. Puis, hop là, c'est pas obligé d'être complexe au niveau de l'alimentation, mais définitivement de se familiariser avec des recettes simples qu'on peut trouver. Tu sais, j'ai par exemple le guide Viens manger qui avait été fait par des stagiaires en nutrition de l'Université de Montréal. Ils ont publié Viens manger végétarisme, volet 1, volet 2, je pense. Ce sont des recettes faites pour les étudiants. Donc, il y a vraiment un gros volet économie alimentaire avec des recettes de base. Et aussi, j'aime beaucoup la fondation Olo, qui est une fondation qui vient en aide, en fait, aux jeunes mamans. En fait, un peu plus défavorisés, mais qui ont des recettes très simples à faire, très visuelles, pas beaucoup d'ingrédients. Donc, on peut aller trouver de l'information. Hein.
Ouais,
très accessible. Très bon. Ouais,
si je peux ajouter mon seul conseil, nutrition de la journée, le air fryer. Moi, ça m'a sauvée en déménageant. Là, comme, je suis pas la plus grande cuisinière.
Oui.
J'aime ça, mais je suis pas non plus exceptionnelle. Mais c'est vraiment pratique. Là, c'est rapide.
C'est vrai, c'est pratique. Ouais.
Ça fait les aliments plus croustillants, mais sans passer
exactement.
Par une friture ou quoi
tout que à que fait, ça. Tout à fait. Moi aussi, je suis bien fan de my fire. Avec deux tiroirs en plus, fait que c'est bien. Wow. Je peux faire. Oui, ça a été un très bon achat. Je l'ai très utilisé à la maison. Ouais.
On mettra, si je me permets, on mettra les liens de, des guides. Là,
oui,
ben, c'était justement une autre de nos questions. Là, pour quelqu'un qui ne sait pas cuisiner, qui ne sait pas par où commencer, des super bons conseils que tu as, des bonnes ressources.
Très, très simple. C'est très visuel avec vraiment chaque étape est vraiment illustrée. Fait que ça permet à la personne qui est peut-être moins à l'aise avec certaines techniques culinaires. C'est sûr que même avec YouTube de nos jours, on peut quand même trouver quand même l'information assez facilement aussi.
On en a un peu parlé tantôt des colocs, mais là, moi, je pense à la situation de plusieurs de mes amis. Frigo partagé avec ses colocs.
Oui!
Comment éviter le gaspillage en évitant la chicane? Comment tu vois
mon
ça?
Dieu. Ben, c'est sûr que d'avoir un réfrigérateur qui est organisé, quitte à avoir des bacs, par exemple. Donc, si on le sépare, ça dépend combien de colocataires on a. Mais je suis très fan, s'il y a des aliments que je veux utiliser, d'avoir peut-être un petit bac que je peux mettre, par exemple, avec des aliments qui vont justement être périmés sous peu. Donc, par exemple, est-ce que j'ai des légumes un peu flétris? Que je voudrais passer, donc s'assurer que ça soit visible. C'est sûr que si mon frigo est un petit peu en bordel, puis ce que je veux utiliser est complètement à l'arrière, je risque de ne pas utiliser et de ne pas le perdre. Donc, vraiment, m'assurer de le mettre à l'avant. Si j'ai des aliments, je me dis, mon Dieu, comme mon brocoli, donc il y a eu des meilleurs jours. Donc, je cuisine bientôt, exactement, il y a mal à la vie. Je pourrais le ramener dans un petit bac à ce moment-là, dans l'avant. Je suis très fan de l'organisation un petit peu du frigo. Donc, ça peut être de vraiment identifier avec le nom de la personne, par exemple, puis d'avoir une structure. Ou sinon, pour venir vraiment à la planification des repas, de le mettre sur le frigo. Qu'est-ce que j'ai prévu faire cette semaine? En fonction de mon horaire, est-ce que c'est réaliste si j'ai trois cours dans ma journée de dire que je vais cuisiner un repas trois services, peut-être pas, mais tu sais, c'est ça de le prévoir à ce moment-là puis de le mettre à l'horaire comme ça on s'assure de pas oublier plutôt que d'arriver à l'épicerie un peu à l'improviste. Oui. C'est sûr que les repas premièrement c'est démontrer qu'on dépense plus d'argent que quand on a une liste d'épicerie puis on passe beaucoup plus de temps aussi à l'épicerie puis on risque de faire plus d'achats impulsifs à ce moment-là donc Oui, la planification, ça arrive.
Oui,
parfait.
Niveau planification de la consommation d'eau dans une journée.
Oui.
Tu sais, on voit beaucoup de monde, bon, avec des bouteilles d'eau, mais il y a aussi beaucoup de sacs d'école sans bouteilles d'eau dans nos classes.
Oui, ben oui.
T'en penses quoi? Tu sais, clairement, on a besoin d'eau dans la journée. T'as-tu des trucs à donner pour des étudiants que c'est vraiment pas comme ancré dans leur, dans leur habitude?
Oui.
J'imagine que c'est, ben pas j'imagine, là, c'est important. Tu veux-tu élaborer là-dessus sur la consommation d'eau?
C'est sûr que ça va beaucoup aider au niveau de la concentration, du système digestif. Tu sais, moi, le meilleur indicateur que je vais utiliser, c'est vraiment la couleur de l'urine. Donc, si j'ai une urine, c'est toujours un petit peu mon truc, couleur limonade ou un petit peu plus clair, je suis bien hydratée. Mais si ça tire un peu sur le jus de pomme, c'est que je suis probablement déshydratée et j'ai besoin de boire un petit peu plus. Il y a plein de différents trucs qui peuvent fonctionner. Tu sais, si vous avez votre téléphone, il y a certaines applications qui permettent de programmer des rappels pour boire de l'eau. Donc, il va vous envoyer, par exemple, une petite vibration. Certaines vont être un petit peu plus insistantes tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas sélectionné ou cliqué sur le bouton pour dire que j'ai bu. J'ai le terme en anglais, là, mais la petite comme notification va demeurer là. Fait que ça peut être intéressant. Ben, c'est sûr de se traîner une bouteille utilisable qu'on aime bien, ça a l'air bête, mais par exemple, moi, chez la mienne, j'en ai une habituellement qui a une paille. C'est plus facile de boire que si je dois dévisser de goulot. Fait que trouver une bouteille qu'on aime, qui est ergonomique, qui va être visible aussi, qu'on peut avoir devant nous, c'est sûr que si je veux boire plus d'eau, mais ma bouteille est comme rangée dans le fond de mon sac, je risque moins d'y penser que si elle est devant moi. Il existe même aussi, c'est bon, peut-être un petit peu plus dérangeant en classe, mais certains petits bidules qu'on peut mettre qui flashent si j'ai pas touché à ma bouteille d'eau depuis 20 minutes. Il y a plein de trucs qui peuvent exister. Mais tu sais, je voudrais d'y aller graduellement. Je suis quelqu'un qui ne boit pas d'eau du tout, ben est-ce que je peux en prendre au repas à ce moment-là, tu sais? Souvent, ce qui fonctionne bien, c'est de le greffer à une habitude qu'on fait déjà. Fait que, si j'ai l'habitude de me faire un café le matin, je pense même, c'est un automatisme, est-ce que je peux avoir ma bouteille d'eau, m'assurer que ce soit à côté d'une bouteille d'eau. Donc, le greffer à quelque chose qu'on fait déjà, ça peut aider. Mais sinon, c'est des tisanes aussi, ça peut hydrater si on n'aime pas le goût de l'eau. On peut y avoir des tisanes, des thés, c'est quand même des boissons qui sont réhydratantes, mettre des tranches de fruits, mettre des fruits surgelés, un petit peu de...
J'imagine qu'on s'habitue aussi. Là.
Ben oui, absolument.
C'est le genre de truc que plus t'en bois, ben, plus ça devient naturel.
Exactement. C'est sûr que initialement, il risque d'avoir une petite adaptation de la part de la vessie. Vous risquez d'aller urner plus souvent. Mais généralement, on se sent beaucoup mieux. On va avoir plus d'énergie, moins de fatigue. Peut-être dans le fond, une meilleure digestion. Peut-être une peau qui est un petit peu moins sèche aussi. Donc, une fois qu'on est habitué à être bien hydraté, ben, c'est plus dur d'en revenir en arrière parce qu'on sent vraiment les bienfaits. Fait que c'est important pour la concentration, surtout aussi en classe.
Je sais pas toi, Laura, mais moi, en stage cet été, je buvais mon eau. J'étais super bonne vu qu'on était au bureau, mais là, maintenant que la récession est recommencée, je me gère pas. Je bois pas d'eau, j'ai les lèvres sèches toute la journée. Est-ce que tu vois la différence genre dans tes journées? T'es-tu bonne pour boire assez d'eau pour tes entraînements et tout?
Ben, c'est drôle parce que j'avais la discussion ce matin dans la piscine. J'ai dit, oh my God, j'ai tellement pas bu d'eau un matin en entraînement. Mais en journée, ça va vraiment. Puis qu'est-ce qui m'aide, c'est avoir de l'eau froide. J'adore l'eau froide. Ouais. Fait que le matin, quand je pars, je remplis ma gourde avec de la glace. Puis là, ça, on dirait que comme j'aime ça, fait que ça me dérange pas. Mais en entraînement, puis c'est comme une vieille mentalité. Là, on dirait qu'on prend pas le temps, mais comme il faudrait, là, parce que, tu sais, puis en plus, dans l'eau, c'est comme si t'avais pas l'impression de tuer.
Mais tu sues quand même, là. C'est quand même des pertes hydriques, là.
Exact. Exactement. Faut juste, comme, s'obliger, là, parce que c'est rare que j'ai vraiment soif en nageant, mais comme, je finis l'entraînement, puis là, je suis comme, oh my God, j'ai soif, puis je suis déshydratée, tu sais.
Exact.
Mais à l'école, ça va, parce que j'ai mon eau froide. Fait que mon petit minutric nutrition de la journée, ce serait avoir de l'eau froide.
Mais parce que absolument.
J'adore l'eau froide.
C'est plus désaltérant. Tu mets de la glace, tu la laisses, par exemple, comme la faire le soir, la mettre au frigo, mettre de la glace, mais c'est fraîche, on a goût de la boire. C'est, moi, j'aime bien mettre des tranches d'orange, des fois des tranches de citron, quand j'ai la chance. Sinon, j'aimais bien le mélange framboise surgelé, des petits quartiers de lime. Ça fait un petit mocktail. Ou des tranches de concombre, tu trouves une façon d'aromatiser, puis éventuellement, comme ça va devenir une habitude aussi, d'en prendre un petit peu plus.
Parfait. Puis, on en a un peu parlé tantôt. Est-ce que tu as des red flags que tu vois sur TikTok, les réseaux sociaux, par rapport à la nutrition, des choses que tu es comme, oh mon Dieu,
j'en ai beaucoup. Ben, c'est sûr, tout ce qui est diète carnivore, ça me fait un petit peu toujours sourciller. Ben, je me dis, comment une diète qui exclut autant de groupes alimentaires n'ayant pas de fibres peut être bénéfique? Puis en fait, ça ne l'est pas. Il y a un effet de lune de miel qui est démontré, mais à long terme, on a vraiment une détérioration des lipides sanguins, du cholestérol, de la constipation, de problèmes de santé. Ben, je vous dirais, tu sais, ce que je vois aussi beaucoup, c'est un discours qui démonise les aliments transformés en ne faisant pas la différence entre des aliments ultra transformés puis des aliments minimalement transformés comme le humus, par exemple. Mais ces mêmes créateurs, influenceurs ou pseudo-professionnels vont dire « Ah, ben il faut vraiment éviter le plus possible les aliments transformés, mais consommer mes suppléments dont je vous vends qui ne sont pas testés. » Je vois beaucoup ce discours-là, puis je me dis « Ah, ouais, c'est très... » En tout cas, c'est un petit peu, je veux pas dire, c'est l'hypocrite.
C'est un paradoxal un petit peu.
Exactement, par exemple, je cherchais le terme, exactement. Donc, je vous dirais, T'sais, toute personne qui prétend avoir l'alimentation qui va convenir à tout le monde, pour moi, c'est un red flag. Parce que c'est très individualisé. Ça dépend de nos valeurs, nos budgets, nos préférences, notre culture. Ça dépend de tellement de choses. Donc, tu sais, quelqu'un qui prétend avoir la diète miracle, ça, c'est un red flag. Mais aussi tout ce qui est mode alimentaire qui exclut certains groupes d'aliments complètement, c'est pas réaliste pour la plupart des gens. T'sais. Ouais. Je dirais que ça serait mes deux plus gros red flags.
Genre, moi, je pense présentement à la diète keto-cétogène. Mm-hmm. Comment tu vois ça, tu sais, de supprimer la plupart des glucides? Est-ce que le corps est capable, justement, de trouver une source d'énergie ou, justement, c'est comme pas vraiment adapté?
Mais il y a une adaptation qui va se faire. C'est sûr que, dans certains cas, tu sais, à la base, la diète cétogène a été développée pour les enfants épileptiques. On s'entend que les enfants n'aimaient pas, parce que c'est vrai que ça diminue, en fait, comme les crises d'épilepsie, mais je peux vous garantir qu'un petit enfant n'a pas nécessairement le goût de manger des brocolis avec 3 cuillères à soupe de beurre. Là, comme ça. J'exagère, mais c'est une alimentation très riche grasse. Puis ça a été comme adopté parce que c'est vrai qu'on perd du poids. Mais pendant combien de temps? T'sais, c'est l'adhésion à long terme, moi, qui me fait questionner. C'est sûr que chez certains patients qui ont des diabètes très difficiles à contrôler, il y en a pour qui ça fonctionne super bien. Puis je veux dire, tant mieux pour eux. Je suis vraiment pas la personne qui va leur dire de ne pas suivre. Est-ce que je recommandais ça chez monsieur, madame, tout le monde? C'est sûr que ma spécialité, je ne vais pas nécessairement le dire, mais ma clientèle est principalement en trouble de comportement alimentaire. T'sais, je m'éloigne de tous ces types de diètes-là qui sont plus drastiques parce que quel impact ça peut avoir? Si je perds du poids avec ce type de diète-là, mais j'ai de la misère à le maintenir parce que ben, tabarouette, je l'aime, ma banane ou j'aime manger du melon d'eau ou ma petite crème glacée, puis que je cesse de ce régime-là, je reprends du poids, ben, ça mine mon moral, ça mine ma confiance en moi, puis je peux développer une part de ces aliments-là riches en glucides-là. C'est sûr que d'un autre côté, en nutrition du sport, ben c'est un non-sens. Là. Ça a été démontré que même dans certains sports, par exemple d'ultra-endurance, on va voir des fois de l'incorporation des diètes plus riches en lipides pour être capable de faire des très longues distances. Mais le but avec ça, ça va être de terminer l'événement, mais ça n'augmente pas la performance. Fait que je voudrais jamais quelque chose que je recommande chez les athlètes parce qu'il n'y a pas de plus-value, en fait. Il n'y a pas de bénéfice qui a été démontré parce que vraiment, à la base, les muscles ont besoin de glycogène, donc de sources de glucides pour être capable de fonctionner. Mm-hmm. Donc, je voudrais que c'est vraiment du cas par cas, mais c'est très drastique. Donc, c'est pas quelque chose que je recommanderais chez monsieur, madame, tout le monde. Ça va être très difficile là, de venir une adhésion à long terme.
Parfait. Oui. On tombe un petit peu dans nos questions du public. Allez-y. Oui. Donc, on a fait appel à notre chère communauté, puis ils nous ont posé quelques questions pour toi. On va parler un petit peu de meal prep. Fait qu'on a une question de qu'est-ce qui fonctionne mieux selon toi? Mm-hmm. Préparer les lunchs à la journée, mm-hmm. faire des meal prep, manger à la cafétéria. Mm-hmm. Même chose pour l'épicerie. Est-ce que tu es plus du genre, on fait justement, on prévoit les repas de la semaine, on va à l'épicerie la fin de semaine, puis tout est fait, ou au jour le jour, on se situe où là-dedans?
Ça va dépendre de vos besoins. C'est sûr qu'à la base, tu sais, si je veux dire, par exemple, pour la préparation des repas, il y a différentes techniques. Il y en a pour qui on peut faire ce qu'on appelle la préparation, la cuisine d'assemblage, où on prépare des ingrédients. C'est-à-dire, par exemple, je vais mariner ma sauce de protéines, que ce soit, par exemple, mon tofu, mon poulet, mon bœuf, par exemple. Je vais peut-être me faire cuire un produit céréalier ou un féculent, comme des pommes de terre, des patates douces, du riz, du couscous, quinoa. Je vais peut-être faire cuire des légumes. Puis à partir de ça, je vais peut-être me créer des bols, des sandwichs, des wraps, qui peut être très populaire, qui est beaucoup moins longue à faire. C'est sûr que comme ça demande un peu de créativité pour créer des combinaisons intéressantes au début, mais ça se fait super bien. Ça peut être une technique qui est beaucoup moins longue à faire puis qui permet d'éviter de manger le même repas toute la semaine, par exemple. Mais aussi, ça peut être pratique de dire, puis ça va vraiment dépendre du temps qu'on a à notre portée. Même en une heure, je peux décider de me dire, je vais me faire des œufs à la coque, je vais faire une batch de muffins puis je vais me faire une casserole. C'est pas très, très long, mais ça me permet quand même d'en avoir. Donc, je dirais que ça dépend du temps dont on dispose. C'est sûr que d'aller à l'épicerie moins souvent, généralement, c'est relié à moins de dépenses impulsives parce que si je suis à l'épicerie puis je viens pour acheter quelques légumes, « Ah, mon Dieu, ça sent spécial, j'aime ça. » Je finis par dépenser plus, finalement, que la personne qui va peut-être une à deux fois par semaine. Donc, j'aurais plus tendance, côté comme économique, à peut-être faire une grosse épicerie ou peut-être deux petits allers-retours dans le fond, à l'épicerie, mais de limiter en fait, les achats tous les jours. C'est sûr que manger à la cafétéria, oui, on sauve du temps. On a quand même des super bons choix ici à l'Université de Sherbrooke, mais c'est plus coûteux par contre. Fait que, ça peut être un petit peu difficile côté qualité alimentaire. Puis nos goûts aussi, on risque d'avoir peut-être un petit peu moins de variété qu'on souhaiterait. Donc, ça dépend vraiment de nos besoins.
Okay. Ouais. Deuxième question du public. Tu en as un petit peu parlé tantôt. Tu as mis un truc pour chasser les aubaines en épicerie. Tu as parlé de certaines applications.
Oui, je vais les ressortir.
C'est quoi tes coups de cœur?
Ah, mon Dieu, il y en a plein que j'aime. Moi, je suis personnellement beaucoup flip parce que j'aime consulter les circulaires en ligne ou par exemple, si je cherche un produit en particulier, je vais par exemple entrer le produit dans la barre de recherche puis ça va montrer en fait le prix de l'article dans toutes les grandes bannières. Les imbattables chez Maxi, c'est sûr que ça fonctionne bien. Généralement, si on a une preuve en circulaire, c'est sûr que d'utiliser, je vous dirais, des chaînes d'épicerie pour ne pas les nommer, qui sont moins dispendieuses, des Maxi, des Super C, même le Costco, si vous êtes une plus grande, si vous êtes plusieurs ou si vous avez une carte, ça peut valoir la peine. Il faut juste faire attention à ce qu'on achète. C'est sûr que ça va être plus économique, mais toutes les épiceries vont quand même avoir des rabais intéressants. Il y a le Rebee qui fonctionne un peu comme le Flip, qui marche bien. Flash Food ou Food Hero qui est disponible, je pense, dans pas mal toutes les épiceries, mais surtout Métro puis IGA, où dans le fond, on va avoir accès en fait en ligne à ce qui est disponible dans leur frigo. En fait, qui sont des aliments qui ne sont pas périmés, mais qui doivent être cuisinés bientôt. Puis après ça, on peut vraiment passer à l'épicerie, les chercher. Puis on économise beaucoup. Too Good To Go est un peu différent. En fait, c'est des restaurants, des épiceries qui vont écouler leur excédent de stock sur des prix dérisoires. On peut parler d'un 6 ou 7 $ pour une grosse quantité. Sauf que c'est en quantité limitée, donc il faut vraiment être plus vigilant pour regarder l'application tous les jours, mais ça vaut la peine. Sinon, il y a des applications comme Glouton qui sont bien aussi, qui ont un abonnement, où là, on peut vraiment faire une planification d'une liste d'épicerie avec les spéciaux. Ça prend un petit peu de temps, mais je voudrais que ça vaut vraiment la peine pour les économies qu'on va faire. Là.
As-tu déjà essayé Too Good To Go?
Oui. Ouais. C'est le fun. C'est juste que tu ne peux pas choisir qu'est-ce
non,
que tu
c'est
veux.
Ça, exactement. Ouais.
C'est à petit prix.
Ben oui.
Ouais, j'aime ça. Puis il y en a après, aussi à Sherbrooke.
Oui.
C'est une application.
Il faut que je l'essaie.
Exactement.
Oui. Genre, j'en parle tout le temps.
Ouais, non, c'est cool, sérieux.
Je pense pas.
Ouais. Ouais, ça fly, là.
C'est vraiment très rapide. Il faut vraiment que tu t'assures. Je pense que ça vend 17 heures le soir. Il faut que tu t'assures d'avoir choisi parce que c'est très populaire, mais c'est une belle façon de limiter le gaspillage alimentaire aussi.
Oui.
Puis d'avoir des aliments un peu de frais. Ça peut être cool.
Prochaine question.
Oui.
Pour un étudiant qui aime ça, justement, se gâter une fois de temps en temps, niveau fast-food, encore une fois, j'imagine que c'est l'équilibre d'y aller de façon pas trois fast-food par jour. mais tu sais, il y a des options comme Poulet Rouge à Sherbrooke. Je pense qu'il est rendu avec quoi? Trois succursales?
Je pense que oui, trois.
Est-ce que tu trouves que c'est quand même une belle option?
Oui.
Tu penses quoi des fast-food après les 5 à... Oui, c'est ça. Après une petite soirée festive le jeudi, des fois, c'est comme facile de se commander quelque chose.
Je vous dirais que ça dépend vraiment de l'utilisation qu'on en fait. Est-ce que c'est une utilisation qui est plus occasionnelle ou c'est régulière? Est-ce que j'y vais plus par nécessité de j'ai une grosse soirée d'études, j'ai pas le temps de cuisiner, je vais me commander un repas qui va me permettre d'être concentré, ou c'est plus parce que j'y vais dans le plaisir avec des amis? Fait que mon choix va vraiment dépendre de mon besoin. Si j'ai un besoin d'être concentré, de travailler ou d'étudier, je vais peut-être pas prendre la même option que si justement je sors des bars à 1 ou 2 heures du matin et j'ai envie de me réconforter. Mais oui, c'est sûr que des options comme le Poulet Rouge, même comme le Subway à la limite, on peut faire des options intéressantes partout. Le Freshie aussi qui est intéressant. C'est sûr qu'il y a des options, mais c'est généralement un peu plus dispendieux. Mais ça peut être bien, je vous dirais. Dans le fond, la plupart des chaînes, pas toutes les chaînes, mais certaines chaînes vont avoir des repas un petit peu plus intéressants. Mais ça dépend vraiment de notre budget, ça dépend de nos préférences, ça dépend de notre utilisation, parce que c'est ça. C'est sûr que les frais peuvent monter rapidement, mais oui, des endroits comme Poulet Rouge, ça peut être super bien parce qu'on a vraiment la capacité de choisir ce qu'on met dans notre bol. Donc, ça permet de le personnaliser en fonction de nos besoins. Ouais.
Parfait.
Ça peut être bien.
Ben, c'est vraiment super de pouvoir discuter avec toi
sur
tes connaissances et tout. T'es super gentille. Oh, vraiment,
j'ai adoré. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Puis là, notre concept ici, c'est de parler un peu de nos fails. Je ne sais pas si tu en as un en tête, mais une anecdote, soit dans ton parcours universitaire ou dans ton quotidien en
professionnel.
Dites
quelque chose
de vieux. Mon Dieu, je suis une personne très maladroite dans la vie. Là. Je vais toujours me souvenir qu'est-ce qui m'est arrivé. Ça m'est déjà arrivé en stage. Je ne sais pas c'était quoi la substance qui m'avait explosé dessus d'un patient. Ah oui, c'était vraiment le fun. Hein? Journée de stage, je vais mettre mes beaux vêtements dans un sac Azimat, me faire dépister au centre de contrôle d'infection, puis mettre des scrubs qui étaient tellement trop grands. Je me rappelle qu'il y avait au moins 4 tailles. Ça, c'était une belle journée aussi. Je pense que mes souliers, comme il y avait passé. Là. Ça m'est déjà arrivé souvent, des beaux petits dégâts comme ça. Sinon, je suis quelqu'un de très maladroite aussi, fait que j'ai tendance à mettre, mais je vais toujours me souvenir d'une fois où j'étais déguisée en genre de reine de Noël pour vendre des billets bénéfices en nutrition. J'avais croisé comme mon crush. Tu sais, j'ai genre d'affaires là, durant la journée, ça a l'air complètement ridicule. Puis, en tout cas, ça a bien fini pour cette époque-là. Mais j'ai pas d'anecdotes, on dit qu'ils me viennent en particulier, mais ça, j'en ai fait plein, maladroit.
On adore ça.
J'en aurais probablement d'autres à raconter, mais
c'est parfait.
Mais oui,
c'est ton plus gros fail culinaire. En appart, as-tu déjà fait un. Hey, moi, j'en ai un que mon chum a fait. On cuisinait, genre, avec la viande hachée. Puis là, il y avait comme trop de gras de viande hachée dans le poêle, ça le dégueulait. Puis il y avait un Tupperware sur le bord du comptoir. Et il vidait le gras dans le Tupperware. Puis je suis comme, non, mais Matt, ça va fondre. Et là, je le regarde.
Non!
Il est tout troué en dessous.
Ça a dû coller sur le
C'était
comptoir.
C'était dégueu. J'étais comme,
non. Ben, en fait, ça me fait penser avec tes plats. Ben, j'ai deux anecdotes. Ça m'est arrivé. Mes amis vont se reconnaître. On faisait des crêpes un dimanche matin avec mes amis. Puis, je vais dire son nom, là. Marie-Raph, elle avait mis l'huile sur le feu, mais sur la poêle, ouais. Mais elle savait pas que le rond était parti. Mais de l'huile, ça l'a évidemment fondu partout à terre. C'était dégueulasse.
OK, c'était un truc en plastique, là.
Oui, oui, c'est ça. Tu sais, un galon d'huile.
Oh non!
Puis, deuxième chose, c'est une anecdote, mais aussi une règle chez nous. Ma mère aussi, elle nous disait ça, fait que ça l'a comme poursuivi en appartement. On n'a pas le droit de mettre de sauce à spag ou de comme sauce aux tomates dans un Tupperware transparent.
Ça devient orange.
Ça m'écœure. Puis là, tu le mets dans le micro-ondes, fait que là, il y a comme. Ouais. Non. Là, Matt et mon frère, ils n'ont pas le droit d'utiliser ça. Je suis comme les bols en vide, c'est parfait pour ça.
Oh, mon Dieu,
mais pas de sauce de tomate dans un plat en plastique transparent.
Belle règle.
Et vous me rappelez qu'une fois à l'université, je me souviens qu'on était en plein hiver. On avait dû sortir de notre résidence universitaire parce qu'il y avait un étudiant qui avait brûlé son craft dinner. Ça avait pris en feu. Puis à 2h du matin, l'alarme de je veux faire la grosse boucane, on doit sortir. Puis je me rappelle, comme on dit, mon laptop, les choses essentielles, j'ai besoin de survivre en petit pyjama et dans mon auto pour se rendre compte que c'était pour ça.
Tellement gênant, là. T'es raté un craft dinner.
Ah oui, puis elle est partie, tu sais, comme c'était passé en feu dans sa chambre, là, au point où il fallait évacuer en plein milieu de l'hiver.
Vraiment, merci beaucoup. Je sais pas si on avait oublié un sujet que tu penses qui est comme 100% pertinent, qu'on doit parler.
Pour le moment, je pense que c'était super complet. Ouais. Comme on l'a dit, on pourrait mettre les ressources en barre d'infos. Je pourrais partager des ressources pertinentes que les étudiants pourront consulter.
Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Merci à tous. Si jamais vous avez, allez nous suivre sur notre compte Instagram, contrôle/back, pour aller nous poser des questions pour nos prochains invités.
Oui.
Puis avoir accès à du contenu en primeur. Donc, bonne journée. Puis merci à toi, Lauriane.
À bientôt.
Ça va, merci les filles.